Chers amis, aujourd'hui nous allons encore nous immerger dans la lumière divine, cette lumière qui a jailli du tombeau du Christ au jour de la résurrection, cette lumière qui illumine l'Église depuis le commencement, donnant naissance à de multiples saints qui sont comme autant de porte-lumière puisqu'ils portent la lumière du Christ au monde. Le Christ, en effet, s'adressant à ses disciples, leur a dit « Vous êtes la lumière du monde ». Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Je vous avais dit la dernière fois que la mission du chrétien est une mission d'illumination. Nous sommes appelés à accueillir la lumière du Christ en nous, à nous laisser transfigurer par cette lumière, et à devenir lumière pour nos frères, reflet du Christ lumière, lui qui a dit « Je suis la lumière du monde ». Eh bien, nous aussi, nous avons vocation à être la lumière du monde, pour autant que nous vivions en fidélité à ce que nous sommes devenus par le baptême, puisque par la grâce du baptême, nous avons été illuminés précisément. Cette lumière du Christ brille d'une manière particulière dans les saints, tous ces frères et sœurs qui ont fait confiance à Dieu, qui ont accueilli son amour et qui sont devenus pour nous comme des phares dans la nuit de ce monde, pour nous montrer le chemin du ciel, pour nous garder dans l'espérance, pour nous aider à courir à l'odeur des parfums du bien-aimé, comme il est dit dans le Cantique des Cantiques. Je voudrais aujourd'hui évoquer la figure merveilleuse de Saint Charbel, le saint patron du Liban, ce moine caché de son vivant, mais qui illumine le monde, et pas seulement le Liban, depuis sa mort. Et il me plaît de parler de lui au moment où le Liban est dans la souffrance, meurtri et blessé, où les ténèbres précisément menacent d'engloutir à nouveau ce pays qui a connu des années et des années de guerre civile, de 1975 à 1990, qui a connu l'invasion de son voisin Israël en 1978, puis en 1982, puis encore en 2006, et qui depuis 2024 est de nouveau menacé dans son intégrité territoriale par ce même voisin. Nous voyons des villages entiers rayés de la carte dans le sud Liban, des villages et des villes bombardés par Israël, des journalistes et des secouristes tués sciemment, des centaines de morts et des centaines de milliers de civils obligés de fuir pour échapper à la mort. Tout cela est douloureux et peut nous donner l'impression que le chemin de croix du Liban est sans fin. En 1989, Jean-Paul II adressait une lettre apostolique à tous les évêques catholiques pour les alerter quant à la situation du Liban et pour les inviter à une journée de prière pour invoquer le Dieu de la paix pour ce noble pays. Dans cette lettre qui n'a rien perdu de son actualité, Saint Jean-Paul II y rappelait, je le cite, « le devoir que nous avons tous de ne pas oublier le Liban » et de ne pas nous habituer aux tribulations cruelles qu'il supporte depuis trop longtemps. L'Église tout entière, disait-il encore, a le devoir de se mobiliser, d'abord pour parler. Face à une information souvent partiale ou superficielle, nous devons faire connaître les riches et séculaires traditions de la collaboration entre chrétiens et musulmans dans ce pays. Une meilleure connaissance mutuelle et l'exercice d'un dialogue mutuel pour le service de l'homme sont des conditions indispensables de la liberté, de la paix et du respect de la dignité de la personne. Ce pluralisme, consenti et vécu, est une valeur fondamentale qui a présidé à la longue histoire du Liban. C'est pourquoi, si ce pays venait à disparaître, c'est la cause même de la liberté qui subirait un dramatique échec. Se mobiliser ensuite pour prier. Nous, croyants, n'avons pas d'autre arme que la supplication que nous élevons du fond de notre misère vers celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. À Dieu, Père de tous les hommes, en ces instants tragiques, nous ne pouvons que présenter les cris de peur et de désespoir de ses frères qui ont trop souvent le sentiment d'avoir été abandonnés au moment même où leur pays est menacé d'anéantissement. Et c'est à cette occasion que Jean-Paul II a prononcé cette phrase qui a marqué les esprits. « Le Liban est plus qu'un pays, C'est un message de liberté et un exemple de pluralisme pour l'Orient comme pour l'Occident. Le Liban était donc pour Jean-Paul II un pays message, unique en son genre dans tout le Moyen-Orient, un pays où la liberté de culte de chaque communauté était au service de la paix et du bien commun de tout un peuple. Il y voyait comme un message prophétique, où l'amour l'emporte sur la haine, où le respect de l'autre l'emporte sur la méfiance et la haine, où la paix ne se construit pas en éliminant les autres, mais en coopérant avec les autres. Or, c'est dans ce pays message, menacé par tant de ténèbres, hier comme aujourd'hui, que le Seigneur a suscité Saint Charbel, comme un phare dans la nuit, une lumière de paix et d'espérance, un signe vivant de la lumière du Christ ressuscité. La vie même de Saint Charbel est un message. Lui qui naît en 1828 dans une famille profondément chrétienne, dans le village le plus haut du Liban, situé à 1700 mètres d'altitude dans les montagnes, au nord du pays, dominant la célèbre vallée de Kadisha, c'est-à-dire la vallée des saints, où tant de moines se sont sanctifiés et ont sanctifié le monde par leurs prières. À cette époque, le Liban est sous occupation turque, et son père meurt après avoir accompli un travail obligatoire pour l'armée turque en 1831. Le jeune Youssef Maklouf, c'est son nom avant qu'il ne prenne le nom de Charbel en entrant au monastère, aurait pu garder bien de l'amertume dans son cœur à cause de la mort de son père causée par l'occupation turque. Mais sa vie de prière le fait entrer dans le pardon. Dès son plus jeune âge, Youssef a toujours avec lui un livre de prière. Il prie, il se confesse et communie fréquemment. Sa piété, son inclination pour la prière, pour la messe, pour les processions, son désir d'éviter la fréquentation des gens et sa bonne conduite lui valent d'être appelé le saint par les gens du village. À l'âge de 24 ans, il entre au couvent Saint-Maron de Hanaya, dans l'ordre libanais maronite, sous le nom de Charbel. C'est le nom d'un martyr de l'église d'Antioche du IIe siècle. Le nom syriaque Charbel dérive de la contraction de deux mots, Charb, qui veut dire histoire ou récit, et de El, qui veut dire Dieu. Le nom de Charbel signifie donc l'histoire ou le récit de Dieu. Oui, Dieu vient écrire une histoire nouvelle pour le Liban par son serviteur Charbel, dont il fera une lumière pour le Liban et bien au-delà. En 1859, il est ordonné prêtre. Il est ensuite rappelé à Hanaya, où il vit 16 années au couvent de Saint-Maron. À cette époque, Charbel désire devenir ermite, et à cet effet, il demande la permission de s'installer dans une grotte aménagée en ermitage. Avant de prendre sa décision, l'abbé veut obtenir un signe de Dieu. Une nuit, Charbel demande à un serviteur de mettre de l'huile dans sa lampe. Par espièglerie, ce dernier y verse de l'eau. Puis il porte la lampe au père Charbel, et celui-ci l'allume, et la flamme brille toute la nuit. Le serviteur stupéfait rapporte alors le fait à l'abbé, qui vient vérifier le contenu de la lampe, et n'y trouve que de l'eau. Il comprend que le signe qu'il attendait est donné, et il autorise alors le saint à s'installer dans l'ermitage pour une vie de solitude. Le père Charbel passe alors 23 ans dans cet ermitage, vivant de pauvreté, de travail, de pénitence et d'intercession. Il a choisi la voie de l'enfouissement, comme la graine qui tombe en terre pour porter beaucoup de fruits. Il a choisi le voile du silence et de la pauvreté, une vie cachée loin des fausses lumières de ce monde. Il s'est enseveli avec le Christ, choisissant de mourir à lui-même pour qu'il n'y ait plus que le Christ qui vive en lui. Mais plus il entre dans ce chemin d'humilité et de pauvreté, et plus sa réputation de sainteté se répand. Les gens viennent le voir pour demander une prière ou une bénédiction. Sa piété impressionne beaucoup les fidèles, qui le demandent sans cesse pour visiter leurs malades, afin de prier pour leur guérison et le salut de leur âme. De nombreux fidèles, même des musulmans, affluent vers lui avec des bouteilles d'eau à la main. Charbel bénit leur eau, qui acquiert alors une vertu prodigieuse, une vertu médicinale. Les malades, les handicapés, les affligés, les souffrants affluent chez lui de toutes parts pour solliciter auprès de lui la miséricorde de Dieu, parce qu'il croit que Dieu l'exauce. Et ainsi tous ceux qui entrent chez lui à l'ermitage en sortent toujours heureux et consolés. Le 18 décembre 1898, alors qu'il célèbre la messe, il est atteint d'hémiplégie et entre dans une agonie de 6 jours, durant laquelle il demeure en paix. Dans son agonie, le père Charbel ne cesse de répéter la prière qu'il n'avait pu achever lors de sa dernière messe. « Père de la vérité, voici ton fils !» Et il ne peut aller plus loin. Il répète également les noms de Jésus, Marie, Joseph. L'âme de Charbel rejoint le ciel le 24 décembre 1898, la veille de Noël. Il est inhumé au couvent d'Anaya. Or, des fermiers témoignent peu après. « Dès la première nuit de son enterrement, nous avons commencé à voir depuis nos maisons, à une distance de 10 minutes de marche du côté sud du couvent, une lumière brillante, différente de celle qui brille habituellement. Elle apparaissait et disparaissait, gardant le même rythme, aussi longtemps qu'on la regardait. Avec cette lumière, on voyait mieux qu'en plein jour la coupole et le mur est de l'église, adjacent au cimetière. Nous sommes allés au couvent raconter ce phénomène aux moines. Ils ne nous crurent pas. Nous avons alors informé le supérieur. Il manifesta également son incrédulité en nous disant « Quand vous apercevrez la lumière, que quelqu'un vienne me le dire, ou bien envoyez-moi un signe. » Eh bien, c'est ce que les fermiers ont fait, et les moines ne purent que constater la véracité des dires des fermiers. Eux-mêmes virent de nombreuses fois les lumières qui sortaient du tombeau. La lumière de la résurrection avait déjà brillé miraculeusement dans la lampe qui s'était allumée sans huile, et maintenant cette lumière de la résurrection jaillissait du tombeau même de Saint Charbel. Lui qui avait choisi l'enfouissement dans l'humilité de sa vie de solitude, le voilà qui devenait lumière brillant dans les ténèbres, comme un phare lumineux, comme un cierge pascal, annonçant la victoire du Christ au cœur même du Liban meurtri et crucifié. Alors, cela ne vous étonnera pas, je pense, d'écouter ce qu'il disait dans une de ses homélies. Je le cite, « L'amour de notre Dieu est grand. Il aime les hommes d'un amour sans limite, parce qu'ils sont ses fils et ses filles. Il a voulu qu'ils soient la lumière du monde à son image. Tout homme est une flamme créée par notre Seigneur pour éclairer le monde. Tout homme est une lampe faite par lui pour rayonner et donner une lumière. La lampe est faite pour illuminer l'obscurité. Mais ces lampes, les hommes, ne s'intéressent qu'à leur apparence. Ils colorient leurs verres, les couvrent de parures, alors que Dieu les a créés fins et transparents pour protéger et propager la lumière. Ils sont devenus épais et durs au point de dissimuler la lumière. Et le monde reste plongé dans le noir. Ces lampes que notre Seigneur a faites pour être porteuses de la lumière au monde se transforment en œuvres d'art, enjolivées et teintées, mais sans lumière. À quoi sert une lampe qui n'éclaire pas l'obscurité? On ne peut voir une lampe dans l'ombre que si elle est allumée. Quelle que soit la beauté de la lampe, sa lumière est encore plus belle. Le monde se perd dans l'obscurité. Soyez-en la lumière. Rendez à vos verres leur minceur et leur transparence afin d'éclairer le monde et de réaliser le but pour lequel Dieu vous a créé. Saint Charbel, dans cette homélie, explicite d'une certaine manière le miracle de la lampe, la parabole de la lampe. Il parle de lui-même. Lui qui est devenu cette lampe de poussière en poterie très pauvre, mais où la lumière du Christ a brillé de plus en plus fortement. Dans une autre homélie, il évoque cette réalité. L'homme est fait de poussière et de lumière. Celui qui vit dans la poussière retournera à la poussière et il mourra. Tandis que celui qui vit dans la lumière retournera à la lumière et y vivra. Et pour Saint Charbel, cette transformation se vit dans l'accueil du Christ qui est la lumière du monde, la lumière véritable qui illumine tout homme, comme le disait saint Jean. Et cette transformation s'opère aussi par la prière. Priez pour vous transformer en lumière, disait-il. Oui, Dieu veut allumer sa lumière en nous, mais nous avons notre part à faire. Il faut veiller sur l'huile. Et je pense que la lampe de saint Charbel, qui s'est allumée sans huile, mais seulement avec de l'eau, manifestait d'une certaine manière que saint Charbel était tellement rempli de l'huile sainte du Saint-Esprit et tellement habité par la lumière de Dieu que cette lumière n'avait même plus besoin d'huile pour allumer la lampe matérielle dont il se servait. Donc, quand saint Charbel nous invite à remplir nos lanternes, il ne parle pas tant de l'objet matériel que de notre cœur, de notre personne, de notre vie. Et c'est ainsi qu'il faut entendre une autre de ses homélies, où il nous exhortait ainsi. Lorsque la lumière de la lanterne s'affaiblit en pleine nuit, il faut la remplir d'huile. Ces jours-ci, la lanterne s'affaiblit, la lumière s'anéantit et l'obscurité est lugubre. J'aurais envie de dire, écoutez le langage prophétique de ce que saint Charbel nous dit là. Oui, aujourd'hui nos lanternes s'affaiblissent, car la foi disparaît des cœurs, et donc la lumière s'affaiblit, et l'obscurité de notre monde devient lugubre. Saint Charbel poursuit, « Remplissez vos lanternes avant qu'elles ne s'éteignent, et que vous ne plongiez dans l'obscurité. La lanterne qui éclaire, veillez sur elle, pour qu'elle veille sur vous. Tant qu'il fait nuit, éclairez vos nuits noires par vos lanternes. Ne vous résignez pas à l'obscurité en attendant la lumière du jour. Vous devez rendre compte de vos lanternes. Gardez-les toutes allumées jusqu'à ce qu'il fasse jour. » Comment ne pas recevoir de telles paroles en plein cœur? Ne sont-elles pas un phare et un conseil surnaturel pour nos frères du Liban et d'une manière plus générale pour tous nos frères de tout le Moyen-Orient qui souffrent tant, qui sont dans la nuit et qui attendent le jour, notamment en Palestine? Mais ne sont-elles pas aussi pertinentes pour nous, ces paroles, dans nos pays occidentaux, nous qui vivons dans l'athéisme pratique, l'inversion des valeurs, la promotion de la mort, et qui prétendons de surcroît donner hypocritement des leçons d'éthique et de droit international au reste du monde? Eh bien, saint Charbel nous invite à veiller sur nos lampes, pour devenir nous-mêmes lumière dans les ténèbres et pour repousser la nuit. Or, cette lumière qui a pouvoir de repousser les ténèbres, c'est l'amour, c'est l'Esprit Saint. Comme il le dit dans une autre homélie, « La sainteté est votre but, la perfection dans l'amour est votre finalité, aimez jusqu'au don de vous-même. Le sang est la seule encre avec laquelle s'écrit l'amour. Le reste n'est qu'encre sur papier. Dans le Christ, tout homme est une parole dans la bouche de Dieu, jusqu'à ce que toute l'humanité devienne un hymne d'amour. » Cela aussi, saint Charbel l'a vécu de son vivant, puisque tous venaient à lui, pas seulement les maronites, pas seulement les chrétiens, mais aussi des musulmans, des druzes. Son cœur était aussi large que celui du Christ pour accueillir tous ceux qui venaient à lui et leur dispenser les bienfaits de Dieu, les bénédictions de Dieu. Et ce qu'il a commencé de son vivant, il l'a accompli et continue de l'accomplir de manière extraordinaire depuis qu'il est dans la gloire du ciel, puisqu'il a opéré par la grâce de Dieu des milliers de guérisons miraculeuses pour ses frères et sœurs souffrants et malades, et là aussi pas seulement pour les chrétiens, mais pour des musulmans, des chiites, des sunnites, des druzes. Et c'est pourquoi saint Charbel est tellement aimé au Liban, tellement respecté et vénéré par tous, pas seulement les chrétiens. Il est le signe de la compassion et de la miséricorde du Christ pour tous les hommes. Le Seigneur n'avait-il pas dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. » Le Seigneur, à travers saint Charbel, est en train d'œuvrer au rassemblement dans l'unité de son amour de tous les hommes de bonne volonté. Il révèle son visage de miséricorde il se fait connaître à tous ses enfants. Si Saint Charbel, qui est comme une lampe brillant dans les ténèbres pour tout le Liban et au-delà, et s'il nous invite à devenir nous-mêmes une lampe allumée dans les ténèbres, sa vision dépasse le plan personnel et l'aujourd'hui de sa parole, pour plonger de manière prophétique dans l'avenir. Comme Saint Séraphin de Sarov avait annoncé un siècle à l'avance les graves tribulations qui allaient s'abattre sur la Russie lors de la Révolution russe, de même Saint Charbel semble avoir annoncé toutes les tribulations du Liban, du Moyen-Orient et même d'au-delà, lors d'une homélie que l'on retrouve dans le livre « Paroles de Saint Charbel » de Anas Kandar, un moine libanais maronite. Dans cette homélie, Saint Charbel rappelle que la lumière de Pâques jaillit toujours de la croix et que personne ne sera épargné par la croix avant que la lumière du ressuscité se lève et chasse toutes les ténèbres et la mort. Non seulement chacun aura à porter sa croix, mais aussi les nations devront la porter. Et dans ce temps de ténèbres annoncées, il exhorte chacun à rester dans la foi, dans l'espérance et dans la charité, dans une confiance absolue en Dieu, qui seul peut faire jaillir la lumière des ténèbres les plus denses. Voici donc ce qu'il disait. « Le chemin de votre calvaire dans ce coin du monde est long, et la croix du Christ dans cet Orient, vous la portez sur vos épaules. Vos ennemis sont nombreux, parce qu'ils sont ceux de la croix. Ne les prenez pas comme ennemis. Parlez-leur toujours avec le langage de la croix, même s'ils vous sont hostiles à cause d'elle. Les mois et les années à venir seront très difficiles, très durs, amers et aussi lourds que la croix. Supportez-les en priant. Que votre prière émane de votre foi, que de votre patience naisse l'espérance, que la croix fasse grandir votre amour. La violence régira toute la terre. La planète sera poignardée par les couteaux de l'ignorance et de la haine. Tous les peuples qui vous entourent chancelleront sous le poids de la souffrance. La peur s'abattra sur toute la terre comme la tempête. La tristesse débordera du cœur de tous. Des hommes ignorants et hostiles présideront au destin de tout leur peuple, les entraînant dans les voies de la misère et de la mort à cause de la rancune aveugle qu'ils surnommeront justice et à cause de l'ignorance lugubre qu'ils appelleront foi. La rancune et l'ignorance prédomineront aux quatre coins du monde. Résistez, soyez fermes dans la foi et la charité. La face de la terre changera, mais vous conserverez la face du Christ. Des frontières, des communautés et des régimes seront effacés et retracés. Des peuples chancelleront sous le poids du feu et du fer. Mais vous conserverez votre amour sans frontières. Sauvegardez votre communauté ecclésiale et que votre régime soit l'Évangile. Soyez l'ancre qui fixe les bateaux errants sur des mers houleuses. Que vos cœurs soient le port du salut de tout homme perdu, égaré et qui demande protection. Par vos prières, vous pouvez faire pleuvoir la miséricorde et irriguer la terre de votre charité. Priez pour attendrir les cœurs endurcis, pour ouvrir les esprits obscurcis, pour soulager des catastrophes et des horreurs. Et après nous avoir dépeint ces effroyables ténèbres, Saint Charbel, comme plongé dans la lumière de Dieu, voit le jour d'après. « En fin de compte, dit-il, n'ayez pas peur, car la lumière du Christ s'élèvera et resplendira. La croix et l'Église s'illumineront. Tenez bon dans votre foi en Christ. N'ayez pas peur, ayez confiance dans le Dieu de la résurrection et de la vie. » À lui soit la gloire éternellement. J'ai été très touchée par ces paroles, qu'on pourrait qualifier d'apocalyptiques et en même temps qui sont pleines de foi et d'espérance. Oui, la croix se dresse désormais devant nous, la croix du Vendredi Saint, pleine de terreur, d'horreur, de ténèbres, mais elle s'illuminera et elle deviendra la croix glorieuse, annonçant le resplendissement de la lumière du Christ sur le monde entier, annonçant des temps nouveaux, une terre nouvelle, des cieux nouveaux, où la vie l'emportera sur la mort, et où tout ce qui aura été arrosé dans les larmes donnera un fruit merveilleux et inespéré. Et dans ce chaos et ces ténèbres, le Seigneur a besoin de nous, non pas pour nous révolter contre ces hommes ignorants et hostiles présidant au destin de leur peuple et les entraînant dans les voies de la misère et de la mort, comme les qualifiait Saint Charbel, mais pour garder la lampe de nos cœurs allumée, pour prier avec foi, pour intercéder et mendier la miséricorde de Dieu pour tous sans exception et conserver un amour sans frontières, selon l'expression de Saint Charbel. Nous n'avons pas à participer avec la foule à la furie des peuples, à leur révolte, qui pourrait être tout à fait légitime d'ailleurs. Mais le Seigneur a besoin de nous pour une autre mission, une mission d'illumination et de consolation. Il veut que nos cœurs soient le port du salut de tout homme perdu, égaré, qui demande protection. Il veut que nous irriguions la terre de notre charité. Il veut que nous prions pour attendrir les cœurs endurcis, pour être comme un baume de consolation, de soulagement, au milieu de tant de douleurs et tant de catastrophes et tant de ténèbres. Ne nous trompons pas de combat. Certes, devant tant d'injustices, nous pourrions avoir le désir bien naturel de nous jeter dans la mêlée pour abattre les mauvais, pour démasquer les hypocrites et les fauteurs de guerre, mais ce faisant, nous participerions de l'obscurité ambiante. Or, nous ne mettrons pas fin à cette obscurité par notre colère, mais nous mettrons fin à l'obscurité en prenant soin de notre lampe, pour que la lumière du Christ ne s'y éteigne jamais, mais qu'elle brille comme un phare dans la nuit, un repère et une consolation pour tous ceux qui sont dans les ténèbres. Plus le monde s'obscurcit, et plus le Seigneur veut allumer des lampes partout sur la terre, comme prémices et prophéties du jour où la croix du Christ illuminera le monde et manifestera la victoire totale du Christ sur toute puissance satanique. Alors oui, Seigneur, fais briller sur nous ta face. Aide-nous à prendre soin de notre lampe, à en protéger la fragile lumière.